Je t'adore. Je t'adore. Dieu de paix, mon Seigneur
et mon roi.
Je t'adore.
Bonsoir à vous tous. Avec l'effervescence qu'il y a dans cette salle, je me demande si je devrais vous prêcher. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun problème ici, que tout va bien, tout est parfait, impeccable. Je me sens inutile tout d'un coup. Mais peut-être qu'il reste certains petits résidus de choses à changer ou à corriger dans nos vies, tout ça. Ce soir, je vais aborder un peu la suite de ce que j'ai développé ce matin. Une étape de plus, une étape supplémentaire, la foi dans la vie, la portion 2. Et si vous voulez, le temps file déjà rapidement, on va aller tout de suite au texte que je vais utiliser ce soir pour appuyer ce message. C'est l'histoire, bien sûr, de la guérison de Bartimée. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Have mercy on me. Fais-moi miséricorde. Aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni ou maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le message de ce soir est encore une fois dans la même lignée que ce que je vous ai prêché depuis ma venue ici, depuis mercredi. Cette dimension de la vie, de la plénitude de la vie, rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, il nous a été donné un espace. Dans le temps, dans l'éternité, nous sommes ici, maintenant. Nous pouvons regarder à cela comme étant simplement un hasard ou prendre conscience que quelque part nous faisons partie d'un plan qui parfois même dépasse notre entendement. Mais que nous avons à assumer, à gérer une portion qui s'appelle notre vie à nous. Et comme j'ai mentionné précédemment, la vie, c'est pas quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que l'on saisit. La vie n'est pas quelque chose qui attend, mais quelque chose qui s'apprend. On n'a pas à attendre après les choses, on est là pour développer et progresser. Et ce soir, dans cette dimension de la vie, dans cette histoire de Bartimée, je vais davantage aborder la foi ou la dimension de la foi qui libère du passé. J'en ai fait allusion à quelques reprises ce matin, hier soir en particulier, mais on a l'impression parfois, hier je parlais de larguer les amarres du passé, mais on a vraiment l'impression parfois que c'est pas tant que notre vie est attachée au passé, qu'on est lié ou attaché par le dos, on a beau vouloir dépenser cette énergie pour quitter le passé, mais en fait ce lien, il n'est pas extérieur, cette attache ou ces éléments qui nous retiennent, c'est quelque chose toujours de l'intérieur, parce que le passé en fait n'existe plus. Le passé, c'est une représentation intérieure. Qui est attaché à mes souvenirs, à des réminiscences qui parfois vont remonter même à la surface. On va avoir des souvenirs de certains événements, parfois heureux, parfois plus malheureux, mais c'est une construction, encore une fois, qui existe à l'intérieur de nous. C'est un registre, un repère, un peu comme les rayons de bibliothèque avec les livres d'histoire. On se met parfois à regarder tout cela. Malheureusement, certains de ces livres sont des histoires tristes. Parce qu'il est arrivé des choses, il est arrivé des drames dans nos vies, qui fait en sorte qu'on focalise davantage sur ces drames-là, en oubliant le reste de tous les aspects de la vie. Dans ce texte-ci, on a affaire à un homme que je qualifie encore à la fois de, j'ai donné l'expression précédemment, d'underdog, qui veut dire en français du perdant. En québécois, on dit un loser. OK? Un loser. Répète après moi, un loser. Hein, vous voyez, vous êtes capable d'apprendre le québécois aussi. Quelqu'un qui est toujours un perdant, le laisser pour compte, la personne qu'on oublie. Je suis toujours fasciné. Pour moi, quand je vois Jésus en contact avec ces gens-là, Je suis ébahi de son amour, de sa capacité d'être interpellé par ce genre de situation-là. Ça me réconcilie avec l'humanité en disant, Dieu voit les démunis de ce monde. Dieu voit les êtres souffrants. Dieu voit les laissés pour compte. Okay? Donc, l'Évangile, c'est pas pour une élite intellectuelle ou sociale, une certaine classe de la société. L'Évangile est pour tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Et c'est ça la puissance de transformation. Dans ce contexte de cette histoire de Bartimée, Jésus sort de la ville, tout juste sort de la ville de Jéricho. Cette même ville où Zachée a été profondément transformé. Un gars dont on ne donnait pas cher de sa peau, le gars probablement le plus méprisé, l'homme le plus méprisé de sa localité, de sa ville, et que Jésus a pris un temps avec lui. L'homme s'est repenti. Vous connaissez l'histoire de Zachée. Et Jésus est avec ses disciples. Et la foule l'accompagne encore une fois. C'est fascinant de voir que Jésus était souvent accompagné de cette foule-là, et elle le suit. Et Bartimée est là, sur le bord du chemin, mendiant tout en entendant la foule. Peut-être qu'il a entendu le bruit de la foule, et peut-être qu'il s'est dit, « Ah, moi qui est un mendiant, et je fais le monde, wow! » Comme on dit en Amérique, « Je vais faire du cash, il va avoir l'argent, la foule va me donner une quinte, je vais faire ma journée, peut-être que demain je pourrais prendre congé et je n'irai pas m'asseoir sur le bord de la route à attendre encore au soleil qui me brûle la peau et avec ma tunique me cacher et tout ça. » Mais ce n'est pas ce qui va se produire, il va se produire quelque chose d'encore plus merveilleux que ça, encore plus extraordinaire que ça. Je vais procéder, si vous voulez, un peu comme j'ai fait ce matin. On va découvrir ensemble les caractéristiques de Bartimée. Les éléments vont apparaître à l'écran. Premièrement, Bartimée est un aveugle. Je veux dire, ben c'est certain, c'est Bartimée l'aveugle. Donc, c'est une personne handicapée. Il n'a jamais vu la lumière. Il vit dans le noir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'imagination d'un aveugle, de quelqu'un qui ne peut pas retenir les images dans sa pensée. Nous, quand émergent les souvenirs, nous avons des scènes, nous avons des représentations. On peut s'imaginer c'est quoi un ciel bleu ou un soleil ou un arbre ou des fleurs ou une orchidée, une tulipe, quoi que ce soit. Plein de choses qu'on peut se remémorer. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa pensée? On ne sait pas. Il n'a jamais vu de fleurs, de visage. Il connaît ses parents, mais il ne les a jamais vus. Il est capable de reconnaître la voix de ses parents, mais il ne les a jamais vus. Et vous savez qu'à l'époque, c'est toujours le cas, même encore une fois, dans certains pays, la condition de l'aveugle était beaucoup plus pire que dans nos sociétés modernes. C'est une vie perdue, des rêves impossibles à cause des limitations rattachées au handicap, des conditions désobligeantes, le rejet de la société, la mise au rencard, la mise à l'écart. Non seulement les gens avaient à vivre avec les limites de leur handicap, mais comme c'est souvent le cas, encore une fois, il y a la moquerie des gens autour, de gens qui envoient ces sarcasmes et de gens qui, « Hey, Bartimée, t'as déjà vu ça, les fleurs? » Bartimée n'a jamais rien vu. Bartimée est aveugle et tout le monde le sait. Le texte nous parle d'un aveugle, donc Bartimée était aveugle, mais le texte nous donne une information supplémentaire, elle nous dit qu'il était mendiant. Pour survivre, Bartimée est condamné à vivre de ce que les autres lui donnent. Donc, il est dans un mode de dépendance envers l'extérieur. Il ne peut pas de lui-même, par ses propres moyens, aller chercher sa pitance, aller chercher sa nourriture de chaque jour. Il doit quêter. Qui dit mendicité, dit laisser pour compte, dit vivre au crochet des autres, vivre à ce que les gens, souvent avec les restes que les gens donnent, un peu comme les SDF dans nos sociétés modernes, ou qui doivent attendre parfois sur les coins de rue. Nous, on a une image très, très forte parce que, vous savez, Montréal est une île. Et pour se rendre sur l'île de Montréal, bien sûr, on passe par des ponts. Il y a trois ponts de la rive sud à l'île de Montréal et un tunnel. Et le pont le plus réputé, c'est le pont Jacques-Cartier. C'est une très belle structure, c'est un pont mémorable. Et à la sortie du pont, lorsqu'on débouche sur l'île, au coin de la rue, il y a une intersection avec les feux de circulation. Et il y a ce qu'on appelle des squeegees. Vous savez c'est quoi un squeegee? Vous savez pas c'est quoi un squeegee? C'est des jeunes, parfois punk, des cheveux un peu bizarres. Parfois, même, ils ont leur chien avec eux et ils se promènent avec une espèce de balai pour nettoyer les vitres. Donc, il y a une bouteille avec un vaporisateur pour laver les vitres des voitures. Mais là, c'est souvent des bouchons de circulation, mais ils sont tous là. Puis parfois, on les regarde et on se dit, toute leur vie est passée à courir après les voitures. Parfois, ils se faufilent dans tes voitures parce qu'il y a trois, quatre voies de large. Puis là, ils passent, puis, hey, monsieur, pour un café, puis ils se mettent avec puis ils lavent les vitres en même temps, puis le feu de circulation tourne au vert, et là, ils se dépêchent à s'en aller comme ça. C'est misérable comme vie. À la limite, on peut dire qu'ils sont débrouillards, quelque part, ils tentent quand même par des efforts à faire quelque chose. Mais c'est une tristesse absolue. Pendant que tous les gens vont dans les tours à bureau à Montréal, dans les grands édifices, ce qu'on appelle des gratte-ciels en Amérique, ils vont dans les tours à étages et tout ça, des gens avec leur beau complet et tout ça, eux sont là en train de laver des vitres. C'est ça un peu la mendicité. On a des images, des représentations très modernes de cette mendicité-là. Bartimée est aveugle, Bartimée est mendiant, mais la Bible, elle dit Bartimée, fils de Timée. Ah, pourquoi cet élément rajouté? La plupart des théologiens s'entendent pour dire qu'il était appelé Bartimée parce qu'il était réellement le fils de son père, ce qui voudrait dire que son père était probablement aveugle. C'est un peu comme si Bartimée, c'était « voici le fils de l'aveugle ». Donc, non seulement il a eu à vivre ce propre handicap par lui-même, mais en plus, son père a vécu. Donc, c'est comme une espèce de malédiction qui se manifeste de la famille de génération en génération. Fils de son père, il est tout comme son père. Maintenant, je vais aller un peu dans cette direction-là dans quelques instants, mais je vais vous réaliser parfois, je n'entrerai pas dans la notion de la malédiction parce que je pense que c'est un thème qui est un peu trop, comment dirais-je? On a l'expression qu'on dit galvaudé, un peu dénué. On apprête ça parce que souvent dans la superstition des gens, on a l'impression qu'il y a quelque chose de tellement sombre qui nous domine. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui se produisent dans les familles de génération en génération, comme le péché qui se passe de génération en génération. On sait maintenant qu'il y a une portion génétique dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des handicaps qui se passent de génération en génération, il y a des maladies qui se transfèrent de génération en génération et tout ça. C'est bien sûr qu'il y a des choses comme ça. Mais il y a surtout tout un contexte dans lequel on se développe, où on se développe mal, où on fait certains apprentissages faussés par le fait que nos parents sont limités dans plein de choses. Alors, ce jeune homme-là, non seulement il n'y a pas un père qui voit, il semble qu'il n'y a pas un père qui voit, selon le texte ne le mentionne pas explicitement, mais on pense qu'il était comme son père et que son père était aveugle. Donc, Timothée, son père l'avait appelé un peu un fils comme moi. On a dit, quand son père s'est appelé son fils était aveugle, il dit, voici, on va l'appeler un fils comme moi. Vous me suivez dans cette pensée? Il est aveugle, il est mendiant, il est fils de Timée. Le texte nous dit qu'il est assis sur le bord du chemin. Il est là, assis sur le bord du chemin. C'est sa destinée à chaque jour de sa vie. Il se lève, quitte sa maison, on ne sait pas où il loge. Il ne connaît pas autre chose dans la vie que de s'asseoir sur le bord d'une route et d'attendre que les gens lui donnent des choses. Quelque chose. Un autre monde. J'ai besoin pour vivre et tout ça. Fait que vous pouvez imaginer comment tout le déroulement de sa vie est entravé. Plein de choses à partir de sa condition vont devenir impossible. Et dernièrement, mais il est seul. Peut-être en ce moment, vous allez faire référence au fait qu'il y a une autre version dans Matthieu qui parle de deux aveugles. Et puis, de toute façon, on est toujours seul avec nos problèmes. Chacun pour soi, à quelque part. L'handicap de quelqu'un d'autre ne résout pas le mien. Les failles de quelqu'un d'autre n'absout pas ma propre condition. On est toujours seul à quelque part dans la vie. Même si on est entouré, il y a un combat qui ne se livre que seul. Et même si on est tous ensemble ce soir et cette salle est presque pleine, chacun des défis que nous avons dans notre vie, nous sommes seuls, nous devons composer. La Bible dit que chacun doit porter sa propre charge. On a notre fardeau, on a notre charge, on a nos responsabilités. Il faut faire face à ça seul. On peut parfois s'aider ou s'entraider, mais il reste quand même que sans qu'on soit isolé nécessairement du reste des gens, on doit faire face et composer tout seul avec plein d'éléments dans la vie. On ne sait pas depuis combien de temps durait le problème de Bartimée? On ne sait pas. Probablement que c'est un aveugle de naissance. On ne connaît pas son âge, malgré qu'on peut supposer ou déduire qu'il était adulte, dis-je. La vraie question qui se pose en ce moment-ci, et c'est un peu ce que je veux vous lancer, depuis combien de temps dure le problème de Bartimée? Ce n'est pas la véritable question. La véritable question qui se pose dans le temps présent, c'est la suivante. Pour combien de temps va encore durer le problème de Bartimée? Et ce que je vous lance ce soir, c'est le même défi. Pour combien de temps vais-je encore composer avec les mêmes choses? Pour combien de temps je vais être encore empiétré dans mes habitudes malsaines? Pour combien de temps encore vais-je continuer à tolérer ce péché dans ma vie? Pour combien de temps encore vais-je accepter mes problèmes personnels sans faire aucune démarche pour les changer? Pour combien de temps encore ces conflits que j'ai vont rester non résolus? Pour combien de temps je vais rester dans mon amertume et dans mon ressentiment? Pour combien de temps, encore une fois, à la limite, je vais tolérer que mes prières restent non répondues. Bartimée a toujours vécu ces cinq conditions. C'est sa vie. C'est la vie qu'il connaît. C'est un homme sans avenir. C'est un homme sans espérance qui sait de jour en jour ce qu'il va faire le lendemain matin. C'est toujours la même routine. Sa condition, elle est désespérée, tout comme celle de la femme qui avait une perte de sang dont on a vu le détail ce matin. Désespérée, désespérante. Les années passent et les choses demeurent les mêmes. Est-ce que cela vous interpelle ce soir? Combien de fois on a l'impression, on a une expression au Québec, on dit, plus ça change, plus c'est pareil. C'est une drôle d'expression, je ne sais même pas d'où ça vient. Probablement que ça a été importé d'ici, puisqu'on vient tous d'ici. Vous savez que je suis français? Oui, je viens d'ici, moi. Je ne viens pas d'Alsace, mais je viens de Poitou-Charentes. Ah ouais. Mon ancêtre, Paul Morisset, est parti en 1696 d'un petit village qui s'appelle de Surgères. Wow! Fait que voyez-vous, je suis un citoyen comme vous. Maintenant, mon accent a été un peu changé. C'est la déformation d'Amérique. Mais je viens d'ici, vous devriez me considérer comme l'un des vôtres. OK? Ça va, vous m'acceptez maintenant? OK. Est-ce qu'il faut que je vous amène mon arbre généalogique ou vous me croyez sur parole? Plus ça change, plus c'est pareil. Les mariages stagnants, les relations pénibles et tout ça. Ce soir, on va tenter de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Mais juste avant qu'on aille dans le détail de son dénouement, je voudrais vous démontrer, par la grâce de Dieu, trois obstacles, ou trois, littéralement, plus barrières qu'obstacles que Bartimée a dû franchir. Trois éléments qui bloquaient, qui pouvaient l'empêcher et qui nous démontrent sa foi parce qu'elle a réussi à surmonter ces choses-là. Le premier obstacle, la première barrière, c'est ce qu'on appelle la résignation. Ça ne peut pas changer. Qu'est-ce que la Bible dit? C'était un mendiant, aveugle, fils de père aveugle. Qu'est-ce qui peut changer dans tout ça? C'est quoi la résignation? Bien simplement, c'est la conviction profonde que les choses ne peuvent pas changer. Maintenant, regardez le texte. Il y a comme une foi là-dedans, il y a comme la foi là-dedans. La conviction que les choses ne peuvent pas changer. Est-ce que vous me suivez? Regardez-moi ici un instant. Quelqu'un dit un jour, les gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils se croient vaincus. C'est pas la même chose. Donc, à quelque part, c'est une foi qui est là, je suis convaincu, j'ai aucun doute que je m'en sortirai pas. Voyez-vous comment c'est, à la limite, cette espèce de foi négative, on a l'impression qu'elle est plus solide, plus consistante que la véritable foi qui est beaucoup plus positive et qui amène le dénouement. Alors voilà pourquoi, dans cette histoire-là, on découvre qu'une des grandes barrières de sa vie, okay, c'est qu'il faut qu'il dépasse tout ça. Parce que la résignation, c'est quoi? C'est l'absence de combativité. C'est la tendance à subir sans réagir. C'est le renoncement, c'est le fatalisme, c'est une espèce de karma qui s'installe dans nos vies. Cet état de résignation, ça se dit de quelqu'un qui se soumet sans résistance, un peu rattaché à l'esclavage, si vous voulez, et sans protestation. Balzac disait, en se résignant, le malheureux consomme son malheur. Et vous? La résignation allège tous les maux sans donner le remède, disait Horace. Et dans ce contexte, cette résignation-là est l'effet d'un cycle de génération en génération en génération en génération, une espèce d'héritage dans lequel les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Je suis résigné, voici ma lignée, voici comment les choses vont aller, dans quelle direction tout ça va aller, et je me résigne et j'accepte avec fatalisme ce qui se passe. Le second obstacle, la seconde barrière que doit franchir Bartimée, c'est la barrière de la stagnation. Le texte nous dit que c'était un mendiant aveugle, fils de père aveugle, assis sur le bord du chemin. Alors pour moi, le fait d'être assis comme ça, d'être assis, ce que j'appelle assis dans la vie, sans bouger, sans aller, c'est la manifestation d'une stagnation. C'est l'état de quelqu'un qui chaque jour est assis comme ça et que la situation n'évolue pas, qu'il n'y a aucune progression, qu'il y a un blocage à sa croissance, à son développement. Les choses sont toujours pareilles, c'est prévisible. Il est assis, il est toujours assis, des gens passent, des voyageurs entrent dans la ville, d'autres sortent de la ville et qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là. Il est toujours là. Même les gens s'habituent au fait, je vais voir pourquoi dans quelques instants, qu'on s'habitue à ces pauvres, on s'habitue à ces démunis-là. Ils sont toujours là. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. OK? Fait qu'on en prend comme une habitude. Mais le danger, c'est pour la personne elle-même qui stagne et qui ne progresse plus et qui n'évolue plus. C'est ça la force de la stagnation. Qu'est-ce que c'est? C'est la condition persistante de quelqu'un qui ne change plus et qui n'évolue plus. Regardez-moi. Il y a des gens qui viennent 3 fois par semaine à l'église pendant toute leur vie sans jamais changer. C'est une énigme pour les pasteurs. Comment ils font pour... Tu sais, Samuel, comment on travaille fort pour construire la prédication. On prie, on demande l'onction. Puis il y a des gens qui sont là semaine après semaine. Et je ne sais pas par quel phénomène ésotérique. Bon, c'est probablement pas ésotérique. Il ne change pas. Le gars, il est là, il écoute. Puis de semaine en semaine, c'est la même chose, et la même chose, et la même chose. Vous imaginez? Et c'est fascinant, la stagnation, parce que c'est l'inverse de la vie. Là où il y a la vie, il y a le mouvement. J'ai parlé de la force de la vie cette semaine. Donc, il faut qu'il travaille dans le sens contraire. Il faut qu'il déploie une énergie pour rester comme il est. C'est puissant, c'est fort. C'est comme si, je ne changerai pas. Maintenant, des fois, on peut même le voir dans ce qu'on appelle le langage corporel, le langage non-verbal, la fermeture complète. Non, je ne changerai pas, je ne veux pas changer. Puis il résiste, puis le pasteur prie, puis prêche et sue. Et le gars reste comme il est. 30 ans comme ça, à passer littéralement à côté de la vie. Voici la force de stagnation. C'est cet élément qu'on doit rattacher au fait de gens qui ne changent plus, qui n'évoluent plus. Moi, ce que j'aime de la France, c'est que vous avez des intellectuels qui, des fois, ont 85 ans, 90 ans, qui écrivent encore et qui publient encore. Nous, on a une tendance un peu de parquer nos personnes âgées dans des immenses centres, qu'on appelle des centres d'accueil ou des centres hospitaliers de longue durée. Et là, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de jouer aux poches le reste de leur vie, à zapper en regardant la télé. C'est pas fini une vie, ça. Un peu comme on envoie la voiture à la casse. On la dépose là-bas, puis elle reste là. On va attendre que le temps passe maintenant, que la date d'échéance se manifeste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une tristesse absolue. La stagnation. Troisième barrière que doit traverser Bartimée, qui va traverser, c'est ce que j'appelle la stigmatisation. Maintenant, c'est un thème un peu technique, je vous l'accorde. Mais si vous voyez à l'écran, je vous ai aidé au niveau de la définition, qui n'est même pas tout à fait claire, mais je vais vous l'expliquer. La stigmatisation, c'est l'effet qu'a sur nous l'idée qu'ont les autres du peu d'espoir de nous voir changer. OK? Cet aveugle-là, OK, est un mendiant, fils d'un père aveugle, assis toute sa vie, et que l'on tente de faire taire. L'homme qui criait trop fort et qu'on veut faire taire. Maintenant, qu'est-ce que la stigmatisation? C'est cette espèce de pression des gens envers les autres pour les empêcher de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Moi, je vous le dis, moi, je suis un partisan de l'église locale, de tout mon cœur, même si je suis un psy. C'est pas le cas de tous les psys. Mais pourquoi j'y crois? Parce que je crois à la force de transformation des liens. Je crois sincèrement de tout mon cœur que si Dieu aurait voulu qu'on s'en sorte tout seul, il n'aurait pas créé l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est un corps de croyants dont les vies sont consacrées à Dieu et qui sont équipés pour s'aimer et se servir mutuellement et s'aider mutuellement. Pour moi, c'est ça l'Église, OK? Fait que l'Église, ça, c'est une représentation de l'Église, de la prédication. Mais la vie d'Église, c'est les relations les uns avec les autres. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des relations très constructives. D'ailleurs, si vous vous souvenez dans votre propre vie, vous êtes capable de nommer des gens qui vous ont donné un bon coup de pouce à un moment de votre vie. Vous dites, une chance que ce frère ou cette sœur ou ce parent ou quelqu'un était là. Parfois, c'est un professeur à l'école qui dit, une chance que j'ai eu. Il m'a donné un coup de pouce qui m'a permis d'évoluer, de progresser. Mais dans le même ordre d'idée, vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez vous souvenir de gens qui ne peuvent rien faire. Ça, moi, vous racontez une anecdote personnelle, et je vous le dis, je l'ai raconté souvent, c'est très, très vrai. Je vous ai mentionné précédemment que j'ai eu une adolescence assez perturbée. En fait, j'ai laissé mes études à l'âge de 18 ans. Okay? Je suis à la maison, un jour, je suis à l'école, puis ça va mal. D'ailleurs, je bois trop, et j'ai plein de problèmes. J'arrive au collège, au niveau du degré scolaire, c'est un petit peu différent d'ici. Je pense qu'il fait un petit peu du début de votre bac. Et c'est pré-universitaire. Et je suis là, j'arrive, puis je ne suis plus capable. Et un jour, je suis au collège, dans la première session, l'automne. Puis imaginez-vous la scène. Je suis assis derrière mon pupitre. OK? Excusez-moi, je vais prendre une pause un peu particulière. Et j'ai les deux pieds sur mon pupitre. OK? Je fume et je fais des ronds. OK? Je suis assis en arrière de la classe. Je suis dans un cours de psychologie. Mon professeur est une Française. Elle s'appelle Suzanne Cuisinier. Que Dieu ait son âme. OK? Elle est là, elle me voit en arrière. Puis un de ces matins, comme seuls les bons Français peuvent le faire, elle pète les plombs. OK? Vous savez, l'éruption volcanique, puis elle se met à crier à travers la classe en m'adressant, elle dit, « Jeune homme, vous êtes un vaurien et vous ne ferez jamais rien de bien de votre vie. » Je me suis levé, puis dans ma tête, je me suis dit, « Merci, madame. Vous venez juste de me confirmer ce que j'ai toujours su sur moi-même. » J'ai quitté la classe, c'était fini. J'arrive à la maison, je dis à ma mère, c'est fini, j'ai balancé l'école. Ma mère se met à pleurer. J'étais son petit dernier. Elle aspirait tellement plus de son propre fils. C'était bien sûr avant ma conversion. Cette dame-là, et je la respecte bien sûr, c'était pas agréable d'avoir ce genre d'individu-là dans sa classe. Mais j'aimerais vous dire que deux années plus tard, lorsque j'ai rencontré Jésus dans ma vie, le 14 février 1975, lui, il n'a pas convenu que j'étais un vaurien. Il a pris ma vie telle qu'elle était, puis il dit, je pense qu'on peut faire quelque chose avec lui. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que la stigmatisation? Cette conviction qu'ont les gens qu'on s'en sortira pas. C'est déjà tellement, tellement difficile pour chacun de nous de se convaincre que peut-être que je vais être capable, que peut-être je vais aller de l'avant. Pour se faire dire, ben, tu n'y réussiras pas. Tu n'y arriveras jamais. C'est impossible pour toi. Voilà pourquoi je dis que c'est l'effet qu'on sur nous. Regardez-moi bien ici. Vous savez, dans toutes les églises ont ce genre de personne, de quelqu'un qui est à l'église, assez fervent, consacré, et tout d'un jour, il balance tout. Il disparaît. Appelons-le Henri. Il est où Henri? Ah, Henri, il est retourné dans le monde. Il a quitté, il a abandonné sa foi. Puis les plus méchants vont dire, le chien retourne à ses vomissures. C'est très, très thérapeutique. Okay? Et les mois passent, parfois même les années passent, puis un jour, Henri revient à l'église. Et qu'est-ce que les gens se disent? T'as vu qui est là? Mais c'est quoi l'idée? Mais pourquoi il revient à l'église, là? Il devrait être la vie qui l'a amené. Ben moi, je dirais, wow, gloire à Dieu. Les malades, quand ils sont malades, ils ne sauvent pas de l'hôpital, ils vont à l'hôpital. Et voici, c'est un excellent hôpital ici. Je l'ai mentionné précédemment, ce n'est pas un musée ici, c'est un hôpital. Les gens sont bien. On devait se réjouir comme le fils prodigue. Il était mort, Henri. Il revient à la vie. Quel meilleur endroit ici. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va sentir parfois le regard de bons chrétiens qui vont le juger encore une fois. Voici ce qu'on appelle la stigmatisation. Ce qu'on pense que les gens pensent de nous. Et je vous dis, quand on est fragile et cassé par la vie, on ressent la perception des gens. On la ressent, cette perception-là. Parce qu'on est hyper sensible. On est écorché à vif et tout ça. Bartimée a réussi à passer par-dessus ce dernier obstacle-là. Il a passé au travers de la barrière de la résignation, la barrière de la stagnation, et la barrière de la stigmatisation. Vous connaissez William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut? Vous connaissez personnellement? Non, on a entendu parler, bien sûr. Mais William Booth, un jour, il y a une histoire fascinante de lui, où il rencontre Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un richissime anglais. D'ailleurs, c'est de lui d'où vient le pays qui s'appelait la Rhodésie. Okay? Donc, il y avait des mines de diamants, puis il y avait des mines d'or dans le sud de l'Afrique. Cecil Rhodes. Puis un jour, William Booth a une rencontre avec lui, puis il l'apostrophe comme ça, puis c'est un homme assez vif et assez. Un tempérament assez bouillant. Puis il dit à Cecil Rhodes, les pires êtres m'attirent comme les mines d'or fascinent les hommes. Jour et nuit, je rêve d'en faire des hommes nouveaux. Wow! Je vous le répète, les pires êtres m'attirent comme les mines d'or fascinent les hommes. Jour et nuit, je rêve d'en faire des hommes nouveaux. Est-ce que vous comprenez que du temps de William Booth, cet homme-là travaillait dans l'East End à Londres, le quartier le plus mal famé. Pourquoi les gens se convertissaient? Parce qu'ils sentaient l'inverse d'une stigmatisation négative, comme on en mentionne, mais la conviction profonde qu'on va t'aider à t'en sortir. Parce que j'y crois. Et j'y crois. Et cet effet de la foi, puis c'est un peu ce que je veux vous encourager ce soir, de croire que c'est possible pour les autres de s'en sortir. Que vous avez un effet dans la vie des autres, dans la vie des gens qui sont autour de vous. Vous pouvez avoir un effet positif ou un effet négatif, mais ce qui est certain et absolument certain, c'est qu'on a toujours un effet. On laisse des traces dans la vie des gens autour de nous. Ça peut être des traces immensément négatives ou excessivement constructives. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce soir? La condition de Bartimée serait restée la même si Jésus n'était pas passé par le chemin ce jour-là. Maintenant, tout comme la femme qui avait une perte de sang, Jésus a répété à peu près la même chose. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Encore une fois, Jésus met le doigt sur ce que j'appelle le facteur foi. Cet élément dans la vie de la personne qui a déclenché quelque chose. Et on va faire à peu près la même procédure que ce matin avec la femme qui avait une perte de sang. On va passer ça au scanner. On va regarder ça en détail. 6 choses que Jésus a vues dans la foi de Bartimée. Si Jésus dit « ta foi t'a sauvé », c'est qu'il a vu quelque chose dans les gestes, dans les réactions, dans le comportement de Bartimée qui dit « wow, je viens de voir la foi, c'est la foi qui a déclenché ça ». Mais tant qu'une fois, c'est bien certain que je ne parle pas de la foi pour la foi. C'est la foi en Jésus, bien sûr. Mais il y a ce facteur qui fait en sorte, un peu comme ce matin, qui l'a amené dans une démarche particulière. Alors, je pose la question ce soir. On se pose ensemble la question ce soir. Mais qu'est-ce que Jésus a vu pour dire que c'était la foi? Mais qu'a-t-il donc vu pour qu'a-t-il observé ainsi pour dire, « Ah, je viens de voir la foi. C'est la foi qui était là. Et c'est la foi qui a déclenché ça. » Premièrement, Jésus a vu un homme qui cherchait. Ah oui, absolument. Jésus a vu un homme qui cherchait en quoi? La réalité est la suivante. Le texte nous mentionne que Bartimée entendit que Jésus passait. Bartimée l'entend littéralement, et c'est ça qui est la force encore une fois, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Maintenant, la phrase est un petit peu différente de celle de ce matin avec la femme qui avait une perte de sang. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Vous avez déjà remarqué un aveugle? Vous savez, des gens que vous connaissez qui sont aveugles, vous avez remarqué qu'ils ne voient pas, mais ils ont surdéveloppé leur ouïe, le sens de l'ouïe. Okay? Bartimée était un homme qui était aveugle, mais qui n'était pas sourd. Il a développé ça, il entend que c'est Jésus. Encore une fois, on peut imaginer la scène, il est là sur le bord de la route, ses oreilles grandes ouvertes, si je peux prendre l'expression. Et là, il entend. Il entend que c'est Jésus de Nazareth. Et là, quelque chose commence à se déployer à l'intérieur de lui. Maintenant, il entendit que c'était Jésus. Et le texte, on va le voir dans quelques instants, mentionne qu'il s'est mis à crier. Donc, il savait à quelque part qui était Jésus. Et encore une fois, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Et il entendit que c'était Jésus. Il entendit que c'était Jésus. Il se mit à crier. Il savait qu'était Jésus. Il était aveugle, mais il entendait. Et encore une fois, ce qui est fascinant, c'est quelle est cette dimension de la recherche dans la vie? C'est la quête incessante de trouver une réponse satisfaisante à notre besoin. D'ailleurs, la vie, c'est une succession de quêtes comme ça. De quêtes et de quêtes. On cherche, on est toujours dans un mode comme ça. Parfois, puis ce soir, si vous m'entendez, ne dites pas « Ah, je suis fatigué de chercher ». Non, cherchez constamment, parce que c'est ça qui nous fait bouger. Okay? Essayez de vous imaginer. Vous savez, je vous ai fait cette semaine la ligne de la vie ici, une ligne imaginaire. Maintenant, quand je vois quelque chose que je cherche et que je cherche à l'atteindre, je me déplace. Et je grandis ainsi. Et là, je suis arrivé, je l'ai, enfin, j'ai vu le dénouement de la situation. Il y a autre chose. Et là, je pars et je marche constamment. Et tout le déplacement sur cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle l'atteinte des buts ou la poursuite de nos objectifs ou la poursuite de nos buts et l'atteinte, le dénouement des choses. Mais je me suis déplacé ainsi. N'oubliez pas qu'on parle du passé aussi. La foi ne change pas le passé, mais elle nous libère du passé. Alors, donc, Bartimée, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il est toujours dans cette quête d'une solution. Il faut simplement reprendre le même principe de la parole de Dieu. Le psaume 34, verset 5 nous dit, « J'ai cherché et l'Éternel m'a répondu. » J'ai cherché, il m'a répondu. Jésus a dit, « Cherchez et vous trouverez. » Encore une fois, ce mouvement vers l'avant, cette quête incessante qui ne s'arrête jamais de trouver une réponse satisfaisante à notre besoin. Deuxième chose que Jésus a vue, Jésus a vu un homme qui criait. En fait, je dirais, il a entendu un homme qui criait. Il l'a entendu avant de le voir. Le texte nous dit qu'il a entendu que c'était Jésus. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous pouvez imaginer la scène fascinante. Le gars, l'aveugle est assis, comme d'habitude, sur le bord de la route, à chaque jour et tout ça. Et il entend que c'est Jésus. Et là, il ne veut pas passer à côté de l'occasion qui se présente à lui. Jésus, fils de David. Et là, la réaction de la foule, ce que j'appelle la stigmatisation un peu plus tôt, tente de le faire taire. L'homme qui criait trop fort, on veut le faire taire. Pourquoi le faire taire? Pourquoi le faire taire? Il est déjà dans une espèce de mouvement, dans une direction. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas muet. Et c'est fascinant parce qu'il compense pour ce qui lui manque avec une bonne audition et de bonnes cordes vocales. Je ne peux pas voir, mais je peux entendre. Et quand j'entends que c'est Jésus, je vais crier, je vais crier, je vais crier, je vais crier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas passer à côté de l'occasion. Il a crié la douleur à son cœur. Il a crié pour se faire entendre. Il a crié par-dessus la foule bruyante. Il a crié pour hériter les biens portants. Parce qu'on tente de le faire taire. Il a crié, crié, crié. Crié. Malgré qu'on voulait le faire taire. Est-ce que vous voyez la foi? Je ne passerai pas à côté de l'occasion. Jésus passe, moi je ne peux pas le voir, je ne peux pas partir à sa recherche, je ne sais pas, personne ne peut me conduire. Mais là, par un hasard divin incroyable, Jésus passe par la route où je suis assis et je vais laisser passer cette occasion-là. Il n'y en est pas question. Encore une fois, cela est répété, c'est toute l'expression intense de la douleur dans notre cœur. De la douleur dans notre cœur. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, oublie-moi pas. Je suis là, Jésus, je suis là. Le psaume 61, verset 2 et 3 nous dit, « Dieu, écoute mon cri. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Est-ce que vous voyez qu'à quelque part, il y a, de la part de Bartimée, un manque de convenance, un manque de bienséance. On se tait dans la vie. On ne se conduit pas comme ça. Mais ce que j'aime, c'est cette témérité de la foi. Ce refus de se taire, de se résigner à sa situation. Non, je ne me tairai pas. Non, comme un enfant entêté. Mais quel dénouement heureux. Il se rapproche de son dénouement. Jésus avait un homme qui cherchait. Jésus avait un homme qui criait. Wow, il veut tellement ce qu'il veut. Qui crie comme ça par-dessus la foule. Et même si on veut le faire taire, il ne réussit pas à le faire taire. Est-ce que vous me suivez? L'homme qui criait. Il a vu un homme aussi qui croyait. Parce qu'encore une fois, Bartimée n'a pas juste crié pour crier. Il a crié quelque chose. Il a cité à haute voix cette phrase, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ah, un élément fascinant dans cette phrase-là, c'est qu'en faisant ça, il révélait sa foi. Le cri « fils de David » mentionne deux aspects particuliers. Premièrement, l'expression « fils de David » est un titre messianique. Bartimée a cru que Jésus était capable de le guérir. C'est presque comme une confession. On va parler de la confession dans quelques instants, mais c'est comme une confession. Comme une confession publique de qui il est. Une validation de qui Jésus est. Et en second lieu, « fils de David » fait aussi allusion à celui qui est le conquérant, celui qui apporte la victoire. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11. Le héros, les héros. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il le récompense, il répond, il réagit à ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que cette foi-là? la conviction profonde que tout peut se produire. Est-ce que vous avez suivi les présidentielles américaines il y a 2 ans maintenant, un petit peu plus que 2 ans ou à peu près? C'était quoi le slogan d'Obama? Yes, we can. Et il y a quelque part, il y avait cette dimension de la possibilité. Maintenant, quand on connaît la culture américaine, okay, je ne ferai pas de politique, soyez rassurés, mais quand on connaît la culture américaine, on s'aperçoit que c'est presque invraisemblable qu'un président noir ait été élu. Je vous le dis, c'est presque invraisemblable. Quand on pense au meurtre de Martin Luther King, quand on pense à la lutte pour les droits civiques américains, il faut être tout près des États-Unis. Moi, j'étais à 30 minutes des États-Unis. OK? Et encore une fois, c'est dans le Nord, et le Nord était la première région des États-Unis qui ont aboli l'esclavage. C'était des anti-esclavagistes, c'est dans le sud que l'esclavage était, dans le sud des États-Unis. OK? Et c'est fascinant de voir que les gens ont commencé à croire tout doucement que les choses pouvaient changer dans une société. Et on le voit en ce moment dans d'autres sociétés, en espérant que tout ça ne tournera pas au vinaigre, bien sûr. Mais cette réalité de gens qui croient que ça pourrait être possible. Et si ça pouvait être possible, pourquoi ça ne pourrait pas être possible? Pourquoi moi, je serais l'exception, comme si Dieu me laissait pour compte? Dieu est prêt à répondre à tous les problèmes, à toutes les prières des autres, mais jamais aux miennes. Pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi Dieu institue-t-il la prière pour ne pas y répondre? Pourquoi Jésus insiste sur la foi pour ne pas réagir à la foi? C'est une contradiction fondamentale. C'est parce que ce sont nos propres limitations intérieures, nos peurs, nos craintes, comme j'ai parlé et répété toute la semaine, qui nous empêchent d'avoir accès. Lui, il confesse maintenant le nom de Jésus. Et il y a cette conviction profonde. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il démissionne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ah! Je suis déçu. Il faisait des bons pas. Mais regardez bien, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et le mot sauver que là est le même terme de ta foi t'a sauvé, c'est sozo, c'est-à-dire rendre complet, rétablir, guérir, remettre en ordre, remettre à l'endroit littéralement, restaurer pleinement. Nous ne sommes pas de ceux, j'aimerais ce soir éveiller sans vous, je ne suis pas de ceux qui démissionnent, je ne suis pas du type démissionnaire. Je ne lâcherai pas. Je ne suis pas du type de celui qui va abandonner. Peut-être même toute cette semaine, vous luttez avec cette idée, certains d'entre vous. « Ah, moi, j'avance plus. Ça y est, c'est fini. Je lâche tout. » Mais non, reprenez votre dignité de chrétien, là. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de ceux qui lâchent et qui abandonnent. Ce n'est pas chrétien, ça. Nous allons persévérer, OK? Nous allons lutter. Quelqu'un a dit un jour, et c'est super, j'aime mieux être un aigle foudroyé par la foudre qu'un cygne qui tourne en rond dans son étang. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le sens de la vie. OK? Peut-être que je vais avoir mal, peut-être que je vais échouer, mais je ne lâcherai pas, je ne le lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, parce que je ne fais pas partie de ceux qui lâchent, de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, pour échouer, pour passer à côté, mais de ceux qui ont la foi pour que les choses changent. Amen. Oh, c'est un tout petit amen. Vraiment, c'est tout petit comme amen. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, un homme qui concédait. Ah, c'est incroyable. Bartimée est un homme qui a cédé ses droits. Ce qu'on appelle concéder, c'est l'abandon volontaire de nos droits au profit de ceux de l'autre. Le texte mentionne que Bartimée, l'aveugle, jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. À la seule parole de « appelez-le et amenez-le », il a littéralement bondi. Maintenant, vous avez souvent entendu beaucoup de prédications là-dessus, je ne vais pas développer trop sur cet élément-là, mais c'est certain que toute une image dans cette torche, pas cette torche, mais son manteau qui laisse tomber, qui représente toute une identité, tout son passé, toute sa routine, ses habitudes, il s'en va toujours avec ce même manteau-là, et là, il le laisse tomber, il n'en a plus besoin, il bondit littéralement vers Jésus. Maintenant, Bartimée est un homme qui a cédé ses droits, que céder son état, sa condition sans résistance à Jésus. Céder quelque chose à quelqu'un, c'est ça le sens de concéder. J'abandonne les choses à toi, j'abandonne mes droits, j'abandonne qui je suis, je laisse aller tout ça. Regardez-moi ici un instant. Écoutez-moi bien, religieusement. avec les deux oreilles. Écoutez-moi bien, je vais vous donner une vérité criante. Entre le connu, douloureux, et l'inconnu, angoissant, savez-vous ce que les gens, en majorité, vont choisir? Absolument. Entre le connu douloureux, je suis malheureuse, mais au moins je suis dans un terrain connu. Changer, c'est se déplacer de mon état et de plonger dans l'inconnu. Laissez-moi vous dire une chose. Changer est la chose la plus difficile sur Terre. Je vous dis que c'est difficile. Ça prend une discipline, ça prend une action du Saint-Esprit. C'est pas magique. Vous savez ce avec quoi vous luttez. Vous le savez vous-même. Vous savez que j'ai raison, que c'est pas facile de changer. Et si vous ne le savez pas, demandez à votre femme. Elle va vous trouver que c'est difficile pour vous de changer. Et l'inverse. Okay? Regardez-moi bien ici. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, je pense que c'est chapitre 6, où Moïse se présente devant le peuple, puis il raconte tout ce que l'Éternel veut leur offrir, la terre promise, la bénédiction et tout ça. Moïse se tient devant les gens comme ça. Les gens attendent depuis 400 ans la délivrance. Et là, Moïse dit, « Ça y est, c'est moi. Yes, we can. Je vais vous sortir de l'Égypte. » OK? Est-ce que vous vous souvenez de la réaction de la foule, des gens? Il y a un texte qui est fascinant, qui dit, « La dure servitude et l'angoisse les empêchaient d'écouter Moïse. » Fascinant. Là, on a un cours de psychologie humaine incroyable dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire lointaine, de gens qui aspirent au changement, on veut quitter l'Égypte, on confesse les promesses de Dieu, puis Moïse est là, puis ils ne veulent pas sortir. Ils veulent rester en Égypte. Mais pourquoi veulent-ils rester en Égypte? Parce que c'est un connu douloureux, mais c'est connu. Je suis malheureux, mais je connais ça. Je vis de la violence, mais je suis là. Est-ce que j'aime? Non, j'aime pas, mais je suis en sécurité dans mon mal. J'appelle ça un confort désespérant ou un désespoir confortable. Est-ce que vous me suivez? Le texte dit la dure servitude et l'angoisse. Deux facteurs. Qu'est-ce que la dure servitude? Vous savez, quand ça fait 400 ans que vous êtes esclave, c'est vous ce qui se passe dans votre vie? Ça, c'est combien de générations, 400 ans? 10 générations. Okay? Dans l'intégration des peuples dans une nouvelle société, on dit que ça prend au moins 2 à 3 générations à changer la culture. Là, c'est 10 générations. Je vous annonce une nouvelle. À 400 ans d'esclavage, c'est vous ce qui se passe? On pense comme un esclave, on marche comme un esclave, on vit comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est devenu identitaire. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des Hébreux, mais nous sommes des esclaves hébreux. Alors, cette notion de Dieu, non seulement ils sont des esclaves, mais ils sont tellement cassés et brisés par les durs travaux que la possibilité d'envisager un changement possible et potentiel n'existe pas en eux. Ils sont battus par eux-mêmes. Il n'y a pas personne qui dit « Yeah, Moïse, on y va, on te suit. » Non, ils ne veulent pas y aller. C'était un travail incroyable de la part de Moïse pour vaincre ces barrières-là, pour les convaincre que c'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, c'est certain qu'il y avait des obstacles. Moïse, n'oubliez pas qu'il a déjà été en Égypte, puis il a fui et tout ça. Il y a tout un rationnel derrière tout ça. Mais le texte ne fait pas appel à ça, il fait appel à la dure servitude. Tellement cassé, tellement désespéré, tellement brisé qu'il ne voit pas le changement possible. Le texte parle aussi de l'angoisse. L'angoisse. Tellement peur que les choses changent. On n'est plus capable, tellement déçu par tous. Et on peut imaginer qu'il y a plein de gens qui s'étaient levés avant Moïse pour leur proposer une voie de sortie. Et ils ne croient plus, ils ne sont plus capables. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Et dans ce texte-là, Bartimée concède tout. Il jette tout ça en arrière. Je fais un bond en avant. L'espoir est en avant et n'est pas en arrière. Si je reste assis et collé et scotché, comme vous dites, un terme très français, à la route, je ne m'en sortirai jamais. Voici mon occasion. Voici mon occasion. Maintenant, un pas de plus. Jésus a vu quoi? A vu aussi un homme qui confessait. Non, on ne parle pas des péchés ici. On parle de l'expression, de l'exposition claire, précise, ouverte et directe de notre besoin. Vous vous souvenez de l'histoire de mon Coca-Cola ce matin? Ceux qui étaient ici? C'est l'erreur que je faisais quand j'étais petit. Je n'étais pas clair, je n'étais pas précis. Je ne sais pas. Il faudrait que tu le saches. Exprime clairement. Mais dans ce texte, ce qui est fascinant, c'est que Jésus lui demande, Bartimée s'approche de Jésus, Jésus lui demande, « Que veux-tu que je te fasse? » Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Vous avez déjà vu un aveugle? L'aveugle ne vous a peut-être pas vu, mais vous l'avez vu? Est-ce que pourquoi on sait qu'il est aveugle? Hein? Pourquoi? Dites-moi des signes caractéristiques. Il y a une canne, c'est probablement que je ne suis pas sûr qu'il y avait un bâton à l'époque, on n'a pas cette information, mais en tout cas, on voit, il y a une canne blanche, habituellement, parfois, il y a ce qu'on appelle un chien guide. OK? Et qu'est-ce que vous voyez de plus? Les lunettes, mais à l'époque, il n'y avait probablement pas de lunettes, bien sûr. Et comment il s'appelle le lunettier? C'est Afflelou ou quelque chose comme ça? Il n'existait pas, il n'était pas là, là. OK, bon. Ça va? Et par contre, qu'est-ce que vous marquez aux aveugles de leurs yeux, au niveau de leurs yeux? Ils bougent, ils fixent, puis ils ont même parfois un petit peu reculé dans l'orbite. OK?
Le manteau.
Peut-être. Oui. Regardez-moi bien. Jésus. Laissez-moi caricaturer un tout petit peu sans être trop déplacé. Jésus, il me semble que tu sais quel est le problème de Bartimée. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi tu demandes, que veux-tu que je te fasse? C'est évident, mais c'est une évidence absolument simple. Jésus, il veut voir. Pop, 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 pop. Pas sûr. Parce qu'il y a un immense fossé, parfois, entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous voulons. Parce que la réponse potentielle à la question « Que veux-tu que je te fasse? » aurait pu être « Tu as des sous, quelques centimes pour un pauvre aveugle qui mendie? » Ça aurait pu être la réponse de Bartimée. C'est une des possibilités. Il aurait pu répondre ça parce que c'est un mendiant aveugle assis sur le bord du chemin et stagnant depuis le début de sa vie. Mais c'est sur la confession explicite de son besoin que je vois. Je veux voir, Seigneur. Maintenant, encore une fois, bien sûr, on pourrait focaliser sur la guérison physique, et bien sûr, il y a cet aspect-là. N'oubliez pas que je me penche avec vous sur la question de la vie. Le jour où il retrouve sa vue, il commence pas juste à voir le soleil, à voir les arbres, à voir des gens, à voir ses parents, à découvrir tout ça. Ah, il va toute une période d'émerveillement. Mais fondamentalement, le rétablissement de sa vue amène le rétablissement de sa vie entière, en principe, parce que ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai vu des gens miraculés, des gens qui ont été surnaturellement guéris et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, ne suivent plus le Seigneur. C'est ça qui est triste. Mais Jésus a vu quelque chose de plus. Je crois qu'il a vu un homme, en dernier point ce soir, sixièmement, qui continuerait. Je vais demander aux musiciens de s'approcher tout doucement, de me rejoindre sur la plateforme. Un homme qui continuerait. Le texte nous dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. OK? Incroyable. Un tout petit texte est une grande révélation. OK? C'est une chose de recevoir de Dieu. C'est une chose de le chercher. C'est une chose de confesser notre besoin. Mais c'est une autre chose de continuer. Et malheureusement, c'est profondément humain. Parfois, on va vers Dieu simplement pour ce que ça peut nous rapporter, mais très peu pour continuer et poursuivre notre démarche dans la foi. Et c'est ça qui est humain. Mais ce qui est fascinant, encore une fois, dans ce texte-là, c'est que cet aveugle a commencé, cet texte aveugle, bien sûr, il n'est plus à ce moment-là, okay, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, à toutes les fois que vous voyez le mot « chemin », dans le Nouveau Testament, ce n'est pas juste une route en terre battue, c'est l'expression, c'est une métaphore, une représentation de la vie. Hein. On dit souvent le chemin de la vie. Comme ça, quelque part, on progresse sur une route. J'ai fait allusion souvent à ça quand je parle de ma ligne imaginaire que je trace. C'est comme un chemin dans lequel on évolue, puis on progresse, on avance sur la route. Et le texte nous dit que suivi Jésus sur le chemin, c'est comme si c'est le début pour lui d'une autre vie. Peut-être qu'il se disait, j'ai tellement espéré ça. Je ne voyais pas d'espoir autour de moi. Jusqu'au moment où Jésus est là, et j'ai tellement saisi l'occasion que bien sûr j'ai crié et j'ai voulu et je cherchais la solution à mon mal, à ma souffrance, à ma vie qui était tellement limitée, au salut de mon âme. Et là, l'occasion se présente. Maintenant que je l'ai trouvé, je ne le lâcherai pas. Je vais continuer et continuer et continuer à marcher. Le malheur dans la vie de beaucoup de gens, c'est qu'ils vivent juste d'épisode en épisode, en oubliant la continuité de la vie. Pour grandir sainement dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il faut marcher sur le chemin. Il faut progresser constamment. Il faut évoluer. Il faut avancer dans tout ça. La foi dans la vie, c'est ça. Regardez bien en conclusion. Le dernier texte qui va apparaître à l'écran. Continue du livre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 2. L'auteur du livre aux Hébreux mentionne cette phrase incroyable. Il dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. Est-ce que vous saisissez la vérité incroyable dans ce texte-là? Vous avez deux groupes. Le texte mentionne qu'ils ont entendu la même nouvelle, le même message, la même bonne nouvelle qu'à nous, comme une semence qui est répartie sur l'ensemble d'un groupe. Et une portion du groupe la reçoit avec foi et l'autre groupe ne la reçoit pas avec foi. Cette portion du groupe qui la reçoit avec foi, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Mais ceux qui ne la reçoivent pas avec foi, elle empêche le changement littéralement. Cette parole ne leur servit de rien parce qu'ils n'y crurent pas. Quand on prend ce verset-là, c'est un peu comme si Dieu lance la balle ou le ballon dans votre camp. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Okay? Je te dis quelque chose, je te parle, je t'annonce, et je t'annonce une bonne nouvelle et non pas une mauvaise nouvelle. Est-ce que tu vas t'en servir? Est-ce qu'elle va trouver une place dans ton cœur? Est-ce que cette semence va germer dans quelque chose? Ça va dépendre de toi. Nous, on va se lever ensemble, s'il vous plaît, ce soir. Samuel, je peux te demander de venir te joindre à moi, s'il te plaît? Alléluia. Je peux conduire un petit peu un chien, tout ça, pendant que je vais faire la... Alléluia, Seigneur Jésus. Oui. On commence tout de suite. Faisons un, puis après ça, on va prendre une pause. Alléluia, Jésus. C'est la fin de cette soirée, la fin de cette semaine aussi. J'aimerais qu'on puisse profiter de ces derniers moments dans la présence du Seigneur. Pendant que notre frère, le pasteur Samuel, va nous conduire dans un chant, je demande d'ouvrir très, très grand vos cœurs, de vous préparer. En fait, excusez-moi, je vais changer un petit peu les plans. C'est vous ce que je veux pas faire un appel en avant pour des personnes particulières. C'est vous ce à quoi je vais vous appeler. Est-ce qu'on avance tous en avant ensemble? Que vous venez tous ici en avant, tout le monde, comme une conclusion glorieuse. À place de rester dans nos places, maintenant, vous n'êtes pas obligés. Mais je vous invite, non, vous pouvez avancer, dans le sens que je ne veux pas que des gens se sentent obligés de venir. Mais spontanément, j'aimerais ça que la plupart vous avancent. C'est comme vraiment un geste de consécration. J'ai mentionné ce matin que le grand défi de nos vies n'est pas ici maintenant, c'est à la sortie. Et qu'on puisse ensemble, pendant que Samuel va nous conduire dans un champ, vraiment aller de l'avant dans cette direction-là. Aller de l'avant. Est-ce que vous voulez venir me rejoindre en avant? Qu'on soit une grande famille. Peu importe d'où on vient, peu importe le kilométrage qu'on a à faire pour retourner à la maison. Alléluia. Allez, puis ceux qui sont en avant, avancez-vous, là, qu'on fasse un peu de place pour tous les gens que de la grande famille présente cette semaine puisse venir en avant. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Seigneur, tu es là. Ouais. Chantons, il est là ce soir.
Seigneur, tu es là.
Tu es là, Seigneur.
Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur.
Nous chantons. Jésus est là, saisis l'occasion.
Rentrons dans sa présence pendant que les musiciens vont continuer à jouer quelques instants. Juste levez vos bras très grands. Vous quittez cette salle dans quelques minutes à peine. Qu'on peut juste ressentir sa présence tout doucement. Levant les bras, Seigneur, on est bien dans ta présence. On est bien dans ta présence. Laissez-moi entendre tout un peuple qui l'adore et qui exprime sa louange et qui exprime ses besoins devant lui. Seigneur, tu es là pour moi. Tu es là pour moi ce soir. Tu es là pour moi ce soir. Laissez-moi vous entendre, je ne vous entends presque pas. N'oubliez pas que Bartimée, il criait, lui. Et je vous donne la permission de crier, si vous le voulez. Seigneur, Seigneur, c'est pas juste Seigneur, tu es là, c'est Seigneur, je suis là. Oh, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur Jésus. Bien sûr, il le sait, il le sait. Mais exprimez-vous ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu. Je ne veux pas passer à côté de l'opportunité qui est à moi. Je ne veux pas passer à côté de l'occasion. Cette semaine, elle est importante dans ma vie. Je veux quitter avec une victoire complète et finale. Je veux quitter ce lieu victorieux ce soir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme la femme qui avait cette perte de sang, comme Bartimée l'aveugle qui a retrouvé la vue, Seigneur, je veux que ma foi dénoue quelque chose. Je place ma foi en toi, Jésus. Jésus, je place ma foi en toi. Tu es mon seul espoir, Seigneur Jésus. Tu es mon seul et unique espoir, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant, Dieu se réjouit de voir son peuple en adoration. Seigneur, manifeste-toi par ton esprit ce soir. Libère, guéris, brise les chaînes du passé, Seigneur Jésus. Tous ceux qui n'avancent pas, Seigneur, qui peuvent sentir cette poussée, Seigneur. Maintenant, ils sont détachés, ils sont libres. Fini l'esclavage, fini la servitude, fini les angoisses. Seigneur, tout est possible à toi. Mais aussi, je réalise que tout est possible à moi qui crois. Je veux croire que tout est possible. Je crois, je confesse que tout est possible, Seigneur Jésus. Je confesse, entends les paroles de ma bouche, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, puissant sauveur, prince de vie, c'est toi mon roi, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Dieu. Jésus, je confesse de ma bouche que je marche avec toi, que je marcherai avec toi. Seigneur, dis-nous les situations de ma vie. Guéris mon cœur brisé. Seigneur. Libère mon cœur du ressentiment, de l'amertume, Seigneur. Je laisse aller ça. Fini, c'est fini, Seigneur. Je veux aller de l'avant, Seigneur. Je veux oublier ce qui est en arrière. Je me porte ce qui est en avant maintenant. Fini la stagnation. Fini la résignation. Fini ce que les gens peuvent penser de moi, Seigneur. Je veux marcher librement dans cette vie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur des Seigneurs et Rois des Rois et puissants sauveurs. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, dans la douceur de sa présence pour quelques instants encore. Ah, Seigneur, qu'on est bien avec toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Connaissez-vous? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia.
Voici, je me
loin, moi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Jetez-vous dans ses bras. Chante, mon frère, me voici, ma soeur. Seigneur, me voici. Comme Bartimée. Comme Jacob, je ne te laissais pas aller avant que tu m'aies béni. Je ne te laissais pas aller avant que tu m'aies béni. Je viens, et je m'abandonne à toi. Je t'ouvre grand mon cœur, je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher, je ne veux rien cacher. Jamais
à la tienne à jamais.
Règne en moi,
règne en moi.
Oh, règne en nous ce soir.
Moi puissant,
règne en nous.
Règne en moi.
Règne en nous ce soir.
Règne en nous.
Moi puissant. Maîtrise-le ce soir,
maîtrise mon cœur.
Viens régner, Seigneur.
Viens régner, Seigneur.
Que ma seule main te seront et que ta volonté. Chers amis internautes, chantez avec nous.
Sois faite à jamais.
Chantons encore une fois, maîtrise mon cœur. Les internautes, chantez avec nous.
Maîtrise mon cœur.
Viens régner, Seigneur.
Viens régner, Seigneur.
Et ma son manteau m'a levé. Et que ta volonté
soit faite à jamais.
Chante encore une fois, règne en moi.
Règne.
Seigneur Jésus.